RRB, l'invité du matin.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
On parle de la lutte contre le financement du terrorisme ce matin avec votre invité.
Oui, et notre invité est Gilles Belaïche. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes commissaire aux comptes, vous êtes même vice-président de la Commission internationale de l'Ordre des experts comptables. Mais on vous reçoit ce matin au titre de l'ONG que vous présidez, l'Agence mondiale de lutte contre le financement du terrorisme. En deux mots, Gilles Belaïche, quelle est cette agence?
Merci.
À quoi sert-elle?
Merci de me recevoir. Nous sommes une ONG visant à mobiliser l'ensemble des ressources qu'il peut y avoir à travers le monde pour lutter contre ce fléau. Sans argent, pas de mouvement terroriste. Pas de mouvement terroriste, c'est aussi endiguer les morts. Alors, on peut le faire par les armes, on peut aussi le faire en luttant pour faire en sorte que les ressources ne soient plus là et que sans ressources, personne ne puisse être en capacité de faire des attentats comme Charlie Hebdo, comme la promenade des Anglais, mais également en Inde, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde.
Ça veut dire que le terrorisme touche certaines régions, mais son alimentation financière provient du monde entier ?
Exactement. En fait, on a l'habitude de voir au travers de l'Europe ou de l'Amérique du Nord les conflits et les conséquences et les terroristes qui viennent tuer à chaque instant. Mais nous ne cherchons pas à travailler sur le terrain de ces terroristes, sur la réalisation de ses propres actes, mais de savoir comment est-ce qu'ils sont financés et aller chercher à la source les moyens d'endiguer, d'assécher ces groupuscules.
Alors on va venir sur ces fameuses sources du financement du terrorisme, mais avant ça, de quoi parle-t-on quand on parle du terrorisme? On a évidemment l'image des terroristes islamistes, parce que c'est ceux qui sévissent le plus souvent en France, mais le terrorisme prend des formes très différentes?
Oui, tout à fait. En fait, il faut aller bien au-delà de ça. Ça peut être les suprémacistes en Amérique du Nord, comme ça peut être évidemment l'ensemble des groupements indépendantistes que l'on peut avoir, comme le FLNC ou l'IRA en Irlande, ou le Fonds de libération de la Bretagne qui également peut faire un certain nombre de dégâts, et l'ensemble des éléments qui nous permettent aussi de se dire que volonté d'affirmer sa force par la peur, la terreur et la mort, tout ça, c'est exactement nos ennemis du premier au dernier.
Alors, il y a donc un certain nombre d'organisations qualifiées de terroristes. Est-ce qu'on peut prendre quelques chiffres, par exemple, pour expliquer? On sait quel est le budget aujourd'hui de Daesh, par exemple, pour le financement de ces actes terroristes.
Oui, alors là, vous prenez le plus riche,
oui.
Parce que, en fait, ils arrivent à trouver moyen, notamment au travers de la Syrie, de mettre en place un certain nombre d'exploitations, que ce soit la partie gazière, pétrolière, mais de taxes locales. Mais grosso modo, on sait que une organisation terroriste de niveau significatif, c'est un budget qui est aux alentours de 400 à 700 millions de dollars par an. Ce sont des budgets, mais nous avons des groupuscules qui sont très actifs et qui veulent et arrivent à tuer. Excusez-moi de le dire parce que le mot est assez horrible, mais à bas prix aussi, parce que ils ont l'objectif de tuer. Et ils ont des ressources qui ne sont pas inexploitables et inépuisables, et donc ils sont obligés d'utiliser cette contrainte financière.
Alors, d'où vient cet argent qui finance le terrorisme? Par quel biais les groupes terroristes arrivent à se procurer de l'argent?
Alors, en fait, on a l'habitude de penser que l'ensemble des pays acteurs qui sont des pays qui financent le terrorisme pour une raison pure ou une autre. On parle du Qatar, on parle de l'Arabie Saoudite sur la partie du Moyen-Orient, mais c'est bien au-delà de ça. Aujourd'hui, le financement du terrorisme, c'est la drogue, par exemple, en Amérique du Sud. Beaucoup de cartels sud-américains se sont accoquinés avec l'ensemble de ces terroristes qui leur fournissent aussi l'occasion de proliférer. Il y a ces partenariats, on va appeler ça sordides, qui peuvent s'établir. Mais c'est également le trafic de faux médicaments, le trafic de pièces détachées, de cigarettes, de contrefaçons. Le trafic des antiquités, c'est une activité qui rapporte entre 6 et 8 milliards de dollars par an aux groupements terroristes. Et puis également, ce sont l'ensemble des actions dans lesquelles, et nous on lutte aussi contre ça, on va avoir au travers des associations, notamment associations cultuelles, dans lesquelles on va verser de l'argent, et cet argent-là va permettre de financer une location de voiture ou un achat d'armes.
Il y a aussi, depuis quelques années, le développement du crowdfunding qui pose un certain nombre de problèmes.
Tout à fait, parce qu'en fait, dès qu'on perd de la traçabilité, c'est prendre du risque sur ce genre de sujet. On a du crowdfunding avec la participation dont la plupart savent pertinemment que ça va aider l'ensemble de leur mouvement. Et quand on dit mouvement, on va jusqu'à l'extrême, mais également du crowdlending, c'est-à-dire des prêts, puisque ces organisations terroristes ont besoin de la même manière d'avoir aussi des sources de financement que l'on rembourse. Et donc, ça passe pas par des banques classiques, on l'a compris, mais ça passe par du crowdlending. Et ça aussi, c'est un fléau pour nous.
Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est assez horrible de penser que l'importance d'un attentat peut être coordonnée aux finances qu'il génère et ce que ça coûte pour les organisations terroristes. Est-ce qu'on a des exemples de combien coûte un attentat pour les organisations terroristes et comment ils gèrent ça?
Oui, Jean-François, vous avez raison. C'est assez horrible. Mais quand on a pu détecter après les attentats de 2015 et 2018 des comptes rendus de mouvements comme l'État islamique ou le Hamas ou le Hezbollah ou le djihad islamique, on a des analyses dans lesquelles on est en train d'expliquer que, par exemple, Charlie Hebdo n'a coûté que 2 580 €. Il se réjouissait du faible coût et de l'impact. Plus il y a de décès, et plus leur mouvement reprendra de l'importance et de la résonance, un peu comme les followers, c'est sordide dans les réseaux sociaux. Pour eux, un nombre de morts, c'est leur puissance. Alors qu'à côté de ça, on a l'attentat sur la promenade des Anglais qui a coûté presque 26 000 €, et on détecte des emails dans lesquels on tape sur les doigts des gens en disant « L'allocation de voiture a coûté 3 800 € de budget, c'est absolument inadmissible. Merci de revoir votre copie pour la prochaine fois. » Aujourd'hui, on parle de ça, mais on parle de mort in fine. Et c'est ça le vrai enjeu de notre lutte.
Alors, au-delà du constat, de la connaissance que vous pouvez avoir de ce financement du terrorisme, quel rôle joue l'agence? Est-ce qu'elle a des moyens de répression? Est-ce qu'elle peut alerter des États ou des communautés pour leur dire attention, là vous êtes en train, par exemple, de développer un système qui va servir à financer le terrorisme? Quels sont vos moyens d'action?
Oui, en fait, nous avons un certain nombre de gouvernants qui sont présents sur les 5 continents. On a par exemple en Amérique du Sud l'ancien juge antiterroriste argentin qui est notre gouverneur sur la partie Amérique du Sud. Nous avons que des acteurs qui ont lutté toute leur vie et qui luttent toute leur vie contre le financement, contre le terrorisme, et qui ont compris que malgré la bonne volonté, malgré les moyens, on parle de presque 9 milliards d'euros de moyens mis en place par l'Europe pour lutter contre ce financement du terrorisme, eh bien nous avons malheureusement un sujet, c'est que chaque État se retrouve enfermé dans sa propre sécurité intérieure et qu'on ne communique pas assez.
Donc partage des informations.
Partage des informations et force de propositions. Donc nous avons un certain nombre de propositions. Nous informons, nous faisons des propositions pour lutter au quotidien contre ce financement du terrorisme et nous travaillons avec les institutionnels, et c'est le cas également aussi dans des territoires comme la Calédonie.
Alors justement, c'est la question suivante. Vous êtes en Calédonie pour des raisons professionnelles, mais aussi au titre de cette ONG, vous allez rencontrer un certain nombre d'acteurs en Calédonie. La Calédonie en particulier, et l'Océanie en général, est aussi concernée par le financement du terrorisme, parce qu'on a l'impression que les actes terroristes sont un peu loin et qu'ils ne concernent pas directement l'Océanie, tout cas pas la Calédonie.
Oui, voilà. Alors, heureusement, bien heureusement, pas sur les impacts que l'on peut avoir au quotidien sur des actes terroristes, mais par contre, sur ces ressources, tout à fait. On a un gros sujet avec les îles Vanuatu, qui nous pose évidemment beaucoup de sujets, à la fois sur le financement en tant que tel, puisque l'île reste encore extrêmement opaque, et puis également... on l'évoquait sur les sujets d'octroi de passeport, parce que ces terroristes-là, ils ont besoin d'argent et ils ont besoin de circuler. Et évidemment, avoir un passeport, c'est la clé pour pouvoir échanger, donner et être présent sur des terrains d'action, malheureusement.
Alors, au-delà du Vanuatu, est-ce qu'il y a d'autres pays et territoires qui sont un petit peu dans le collimateur de votre ONG?
Oui, alors là où nous avons beaucoup de prolifération sur la zone Océanie au sens global du terme, c'est l'Indonésie, Singapour également, dans lequel on se retrouve avec des grosses mouvances qui sont des mouvements islamique et qui arrivent à capter énormément d'argent qui sont après reversés sur l'ensemble des groupes terroristes dans le monde. Et ça, la zone Océanie, c'est une zone qui n'a pas assez, à notre sens, été explorée dans cette lutte contre le financement du terrorisme, alors que ça représente l'équivalent de 4,5 milliards d'euros au sens global de la zone.
Alors vous savez que quand on parle de l'Océanie, on parle maintenant beaucoup de la zone Indo-Pacifique, et puis derrière, il y a un peu tapis dans l'ombre, j'allais dire, la Chine qu'on regarde avec des yeux parfois un peu hostile. Est-ce qu'on a raison, notamment sur ces questions de financement du terrorisme?
Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, alors évidemment, on n'en entend pas parler parce que le gouvernement chinois fait en sorte qu'on n'entend pas parler au quotidien. Mais aujourd'hui, la Chine est le pays dans le monde qui connaît la plus forte croissance de ces mobilisations de groupuscules terroristes au-delà du Moyen-Orient. Et à notre sens, c'est un vivier et un risque absolument incroyable, puisqu'en fait, pour parler des groupements islamistes, ils ont compris depuis longtemps qu'ils étaient dans le collimateur, et aller dans dans des zones de back office, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, dans lequel ils vont être un petit peu moins sous le soleil. Et puis évidemment en Chine, la partie bancaire, trésorerie, beaucoup plus opaque. On ne répond pas aux questions du GAFI, de TRACFA en Europe, etc. Et donc on se retrouve avec des moyens de financement qui sont beaucoup plus libres et beaucoup plus faciles d'accès.
Gilles Belaïche, finalement, est-ce que le terrorisme n'est pas le premier entreprise mondialisée?
Et c'est exactement ça. On a aujourd'hui des organisations qui sont parfaitement en ordre. Ils ont des moyens d'action, de propagande. Ils ont des structurations. Les gens sont assez étonnés de voir à quel point est-ce que ces structures-là, il faut payer des mercenaires, il faut payer des armes, il faut payer des locations de voitures, il faut payer des planques. Tout ça, c'est énormément d'argent. Et cet argent-là, si on arrive à le tarir, c'est chaque fois des morts en moins.
Gilles Belaïche, président de l'Agence mondiale de lutte contre le financement du terrorisme, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Jean-François.